Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé.
Ta gueule.
J'en viendrai pour toi, Bennett.
On t'a sonné, toi?
Pour moi, il y a une déclaration de guerre.
Mais c'est pas vrai de voir des machos pareils.
On a frôlé la catastrophe, hein.
Si tu pointes encore, tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware.
Toi, tu me ranges ce couteau et tu fermes ta gueule.
Bien joué, trou de balle.
Merci, sœur.
Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode en mode
What the fuck ?
De retour à l'écran. Moi c'est Max, et aujourd'hui je vous propose de remettre en lumière l'un des cartons de l'ère VHS, une série B choc que tout le monde s'arrachait dans les vidéoclubs en plein cœur des années 80, et dont le sujet reste toujours aussi polémique aujourd'hui. Ce film, c'est Le Droit de Tuer, aka The Exterminator, de James Glickenhaus avec Robert Ginty et Steve James. Sorti dans les salles françaises le 24 février 1982, il s'est intercalé entre deux autres films déjà remis en lumière dans Retour à l'écran, 1000 milliards de dollars sorti une semaine plus tôt, et Wolfen qui lui a succédé une semaine après. Alors pourquoi son sujet reste-t-il toujours aussi touchy, surtout aujourd'hui? Parce que Le Droit de Tuer appartient à un sous-genre bien particulier, le vigilante flick. Ces films d'action ultra-violents où un citoyen ordinaire, souvent poussé à bout par l'injustice et l'inefficacité du système, décide d'agir lui-même, quitte à franchir la ligne rouge entre vengeance et justice. Un thème qui encore aujourd'hui soulève des débats enflammés sur la légitimité de l'autodéfense et la glorification de la violence dans le cinéma. Pas vraiment de place donc pour la déconne dans cet épisode qui a pourtant toute sa place dans le format What the fuck et dans lequel je m'abstiendrai de défendre ou condamner le thème de l'autodéfense. Je me contenterai uniquement de contextualiser et de vous plonger dans les coulisses d'un film qui a marqué toute une génération de vidéoclubbeurs.
Mon viet !
Alors préparez-vous à replonger dans ce New York crasseux où les rues étaient plus dangereuses qu'un Black Friday chez Walmart. Entre fusillade, vengeance explosive et justice au lance-flammes, Le Droit de Tuer n'y va pas avec le dos de la cuillère. Mais attention, derrière ces allures de série B bourrine, le film soulève aussi des interrogations pas si débiles que ça. Quand la société ne protège plus les citoyens, jusqu'où peut-on aller pour réparer une injustice? Est-ce qu'un homme seul a le droit de prendre les armes? Ou est-ce qu'on sombre direct dans le fascisme de quartier? Bref, on appuie sur play et on rembobine l'histoire du droit de tuer. Avant de rentrer dans les détails de sa production, Le Droit de Tuer, ça raconte quoi? Le Droit de Tuer, c'est l'histoire de John Eastland, un vétéran de la guerre du Vietnam qui, après avoir vu son meilleur ami se faire agresser violemment par une bande de voyous et devant faire face à une police impuissante, décide de faire justice lui-même en devenant un redresseur de tort impitoyable. Armé jusqu'aux dents et déterminé à éliminer les criminels qui gangrènent New York, John plonge dans une spirale de violence où chaque règlement de compte le rapproche un peu plus de la folie et de l'isolement. À mesure que son carnage attire l'attention des médias et des autorités, la police se met à sa poursuite, cherchant à arrêter celui que certains considèrent comme un héros et d'autres comme un dangereux criminel. Mais jusqu'où ira-t-il pour imposer sa propre justice et à quel prix?
Les élections ont lieu dans 2 mois à peine. Voilà une histoire dont la CIA se serait passée. Il va falloir que vous interveniez.
Que voulez-vous qu'on fasse?
L'intérêt national exige qu'on se débarrasse le plus vite possible de l'individu capable d'un tel forfait.
Je vois. On l'arrête et on lui fait un procès.
C'est une solution, mais ce n'est pas celle à laquelle je pensais.
Oui, je m'en doutais. Un procès pourrait bien sûr remettre bien des choses en question. Je pense par exemple aux promesses électorales du président. Un gouvernement qui s'est avéré incapable de faire régner la loi et l'ordre pendant 4 ans se verrait difficilement offrir une seconde chance.
Exact, et c'est la raison pour laquelle je vous demande d'intervenir.
Avant de vous parler du film qui nous intéresse, un petit mot sur le fameux sous-genre auquel il appartient, le vigilante flick, pour contextualiser au mieux la production de tels films. Des films mettant en scène des personnages ordinaires qui, face à une justice jugée inefficace ou absente, décident de la rendre eux-mêmes, souvent par la violence. Ils traduisent avant tout un malaise sociétal profond aux États-Unis, notamment au milieu des années 70. Cette période est marquée par un sentiment croissant d'insécurité, en particulier dans les grandes métropoles comme New York, Détroit ou Los Angeles. La population a alors le sentiment que la justice est défaillante, que la police est dépassée et que l'État ne parvient plus à garantir la sécurité de ses concitoyens. Un constat appuyé par ces deux journalistes politiques.
Les années 70, c'est vraiment la période la plus sombre de l'histoire de New York où la ville était mal famée, il y avait de la violence partout, il y avait des crimes partout, il y avait une crise économique très très profondément ancrée.
Pour avoir une idée de ce à quoi New York ressemblait dans les années 70, il faut regarder Taxi Driver de Martin Scorsese, dans lequel Robert De Niro joue le rôle d'un chauffeur de taxi. Et dans ce film, on voit Robert De Niro sillonner les rues de New York et il sillonne des rues marquées par la présence de la prostitution, de la drogue. On voit un des biens immobiliers particulièrement dégradés.
Face à cette angoisse diffuse, une idéologie sécuritaire commence à s'installer dans l'opinion publique. Le cinéma d'exploitation, toujours prompt à capter l'air du temps pour engranger des profits, va s'engouffrer dans cette brèche avec un opportunisme certain. C'est ainsi que naît le vigilante flick, un sous-genre populaire, certes inégal sur le plan artistique, mais qui rencontre un succès fulgurant en salle et par la suite dans les vidéoclubs.
Vas-y, allez, fais-moi plaisir.
Si l'inspecteur Harry de Don Siegel, sorti en 1971, posait déjà la base du justicier solitaire confronté à une justice impuissante, c'est le carton surprise d'un justicier dans la ville en 1974 qui va véritablement ouvrir la boîte de Pandore.
Hé, hey, monsieur, t'aurais pas du feu ?
Mais
t'as rien d'autre ?
Et voir ton pognon, mec. Viens le chercher.
D'accord.
Dans ce film emblématique de Michael Winner, le monolithique Charles Bronson incarne Paul Kersey, un homme ordinaire transformé en exécuteur sans pitié après l'agression brutale de sa famille. Le film fait scandale, tout en rencontrant un succès massif, posant les jalons d'un genre aussi controversé que lucratif. Le vigilante flick devient alors l'un des sous-genres les plus discutés du cinéma américain, alimenté par une myriade de productions opportunistes, souvent plus brutales que subtiles. Des producteurs peu scrupuleux multiplient les clones dans une course à la surenchère de violences parfois gratuites. Parmi ces succès d'années notables, on peut citer le bien nommé Vigilante de William Lustig en 1982, ou encore Philadelphia Security de Lewis Teague, qui pousse encore plus loin la logique de vengeance individuelle.
Combien de temps allons-nous supporter qu'on nous agresse ? Combien de verrous allons-nous mettre à nos portes ?
Nous n'avons plus de police, ni de procureur, ni de tribunal, ni de prison. Je veux dire que tout ça, c'est fini. Il y a deux poids et deux mesures. Maintenant, on est une statistique. Alors moi, je vous dis, quand on n'ose plus descendre acheter un paquet de cigarettes le soir, parce qu'on sait que la rue appartient aux loupards et aux voyous dès que la nuit tombe, et que les autorités ne peuvent pas nous protéger, voilà ce que je vous dis, les mecs. Vous avez une obligation morale, le droit de préserver vous-même vos vies. Vous pouvez fuir. Vous pouvez vous cacher. Ou essayer de vivre à nouveau comme des hommes. C'est notre Waterloo, mes amis. Si vous voulez retrouver votre ville, il faut la prendre. Compris ? La prendre !
Cette mise en contexte étant faite, on retourne au cœur des années 70 pour vous raconter comment le droit de tuer a vu le jour. À cette époque, James Glickenhaus est un jeune entrepreneur passionné de cinéma. Bien que ses affaires soient florissantes, il décide pourtant de vendre son entreprise de croisière pour financer son premier film. Il conclut alors un accord avec son futur beau-père, John Cameron, afin d'acquérir les droits de son roman The Astrologer et l'adapter au cinéma.
We have a deal.
Pendant 2 ans, Glickenhaus écrit seul le scénario et monte son projet sans aide extérieure avec un budget très restreint de $20,000. Grâce au soutien de ses amis, il parvient finalement à faire grimper le budget à $65,000, ce qui lui permet de terminer un film d'une durée d'1h20. Malheureusement, aucun distributeur ne souhaite acquérir le film. Glickenhaus décide alors de démarcher directement les drive-in du sud des États-Unis pour les convaincre de le projeter. Seuls quelques-uns acceptent, et il faut bien admettre que ces rares projections n'ont pas suscité un grand enthousiasme chez les spectateurs. Loin d'être découragé par cette première expérience, Glickenhaus la considère comme un véritable apprentissage. Avec le recul, il réalise que sur les 79 minutes de son film, 60 sont constituées de dialogues interminables. Les scènes d'action étant les seules vraiment réussies, il décide que son prochain film sera presque exclusivement centré sur l'action. Jusqu'en 1979, il cherche le sujet de son nouveau film dans l'actualité d'un pays traversant une période troublée, marquée par une violence croissante, en particulier dans les grandes métropoles. Un jour, un fait divers retient son attention.
Le droit de tuer est né après que j'ai lu un fait divers à propos d'un jeune homme qui s'était fait agresser et qui en était resté paralysé. Et vous savez, on ressent de la rage face à ça. Mais ensuite, j'ai commencé à réfléchir. Oui, c'est dans le journal, tout le monde est en colère. On en parle à une soirée et c'est un événement qui dure un certain temps. Mais dans un mois, 1 an, 2 ans, ce type sera toujours paralysé. Et moi, je ne m'en souviendrai même plus. Alors j'ai commencé à me demander jusqu'où cette rage pourrait-elle mener quelqu'un.
Le réalisateur souhaite également ancrer son film dans les répercussions psychologiques et sociales de la guerre du Vietnam sur les vétérans de l'armée américaine. Comment ces hommes vivent-ils leur retour dans un pays qui les accueille désormais avec indifférence, voire avec mépris ? Quels sentiments les habitent face à l'ingratitude d'une nation pour laquelle ils ont risqué leur vie ? Nombreux sont ceux qui, à leur retour, se heurtent à une société qui ne comprend ni leur souffrance, ni leur colère. Rejetés, stigmatisés, parfois oubliés, ces anciens soldats se sentent trahis. Comme le fera quelques années plus tard le regretté Ted Kotcheff dans le premier Rambo, le film explore ainsi ses ressentiments profonds, la frustration, la rage, mais aussi le désespoir d'hommes dépossédés de leur honneur et de leur place dans la société. Bon, au-delà de ses bonnes intentions, on peut quand même soupçonner Glickenhaus de vouloir profiter du succès des films d'autodéfense qui pullulent depuis le carton du premier opus des aventures du justicier incarné par Bronson. Même si le réalisateur s'en défend.
Bien sûr, j'étais conscient de l'existence d'un justicier dans la ville, mais j'ai délibérément choisi de ne pas le regarder à l'époque. Je ne l'ai vu que des années plus tard, après avoir réalisé Le droit de tuer, car je ne voulais pas être influencé par ce film. Pour moi, ce genre de film ne commence pas avec un justicier dans la ville. Il remonte au western. C'était des histoires de types qui arrivent dans une ville, cherchent juste à manger quelque chose, boire un verre de whisky, dormir dans un lit, prendre un bain, puis repartir. Mais on ne les laisse pas tranquilles. Ils se retrouvent, malgré eux, impliqués dans quelque chose de compliqué. Et parce que ce sont des êtres humains, avec un vrai sens moral, qu'ils finissent par faire ce qui est juste.
En très peu de temps, Glickenhaus écrit son scénario avec l'idée en tête que son héros ne serait pas incarné par un acteur charismatique, au physique imposant, mais par quelqu'un qui ressemble à Monsieur Tout-le-Monde.
Traditionnellement, les films d'action faisaient appel à quelqu'un comme Bronson ou Stallone. Des acteurs au caractère bien trempé, des choix très évidents. Moi, je voulais faire l'inverse. Je voulais trouver quelqu'un qui n'était pas forcément musclé, qui n'était pas un héros d'action, qui se faisait même tabasser à quelques reprises au début du film, et qui était simplement une personne ordinaire qui, poussée à bout, devenait un héros malgré lui.
Le premier choix de Glickenhaus se porte sur l'acteur Joseph Bottoms, notamment vu dans la production Disney Le Trou Noir. Mais Bottoms demande un cachet trop élevé pour ce qui reste un petit film de série B. Le réalisateur, associé à son ami et producteur Mark Buntzman, a en effet réuni un budget modeste de 2 millions de dollars apporté par la société de production AFCO Embassy, la même qui était derrière Fog de John Carpenter dont je vous avais raconté l'histoire dans un précédent épisode.
Au suivant.
Glickenhaus se tourne alors vers Robert Ginty, un acteur jusque-là habitué au second rôle au cinéma et à la télévision, qui accepte d'incarner le vétéran justicier, voyant là l'occasion de jouer son premier rôle en tête d'affiche.
Qu'est-ce que tu fais ?
Je cherche des copains à toi.
Écoute-moi, ce matin, un de mes copains s'est fait attaquer. Je crois que c'est eux qui ont fait le coup. Fais pas ça ! Arrête ! On a un club où on va tous, c'est près de Bartlett.
Si tu m'as menti, je reviendrai.
Pour jouer le rôle de son ami, victime de l'agression qui déclenchera sa folie meurtrière, le réalisateur choisit Steve James, alors inconnu et qui deviendra plus tard l'un des héros de la saga American Warrior, dont je vous ai là encore largement parlé dans de précédents épisodes. Pourtant, Steve James a été initialement sélectionné pour un autre rôle.
À l'origine, je n'avais pas pensé à Steve pour ce rôle. Il avait auditionné pour le rôle du barman. Il est venu, il a lu son texte, et je me suis dit « Waouh, ce gars est vraiment un bon acteur ». Au départ, quand j'avais écrit le personnage, je l'avais imaginé comme étant hispanique. Puis j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit « Pourquoi se limiter à cette case ? Le fait qu'il soit noir ou non n'a aucune importance ». Alors je lui ai donné ce rôle et j'ai simplement modifié le script en conséquence.
Pour compléter le casting, Glickenhaus fait appel à Christopher George, un acteur vu précédemment dans un nombre conséquent de films de guerre et westerns de série B. Il fait appel aussi à Samantha Igar, qui sort à ce moment à peine du tournage de Chromosome 3 de David Cronenberg.
Je peux savoir pourquoi la CIA s'intéresse à cette affaire.
Nous y intéressons parce qu'en cette période plutôt délicate, c'est-à-dire 2 mois avant les élections, l'exterminateur a réussi à ranimer un certain nombre de vieux griefs contre le pouvoir en place et contre tout notre système judiciaire. Il pourrait s'agir d'un agent au service d'un parti d'opposition, ou peut-être même d'une puissance étrangère. Je peux savoir ce que vous en pensez ?
Je pense que vous devriez aller aux chiottes. Je vois la merde qui vous pend aux lèvres et ça me dégoûte.
Le tournage du Droit de tuer débute le 10 septembre 1979 avec les prises de vue de la séquence d'ouverture du film. Cette scène censée se dérouler au Vietnam est en réalité tournée en Californie dans les Indian Dunes, un vaste site naturel dédié aux productions cinématographiques. C'est également là que 2 ans plus tard, l'acteur Vic Morrow et 2 enfants figurants perdront tragiquement la vie sur le plateau du premier segment de la 4ème dimension réalisé par John Landis. Une affaire sordide qui entraînera pour le réalisateur des Blues Brothers de longs et pénibles démêlés judiciaires. On vous racontera d'ailleurs cette histoire plus en détail dans un prochain grand format.
C'est noté.
Allez, on revient sur le Droit de tuer. Le réalisateur James Glickenhaus veut que la séquence d'introduction de son film soit marquante et spectaculaire. Il va d'ailleurs lui consacrer près de 20% du budget dont il dispose, soit 400 000 dollars sur les 2 millions alloués. Au programme, ballet d'hélicoptère, explosion, mais aussi une impressionnante décapitation confiée par Glickenhaus à l'un des maîtres du maquillage et des effets spéciaux animatroniques, Stan Winston. Si son nom ne vous dit peut-être rien, beaucoup d'entre vous connaissent forcément son travail. Il est notamment le créateur des ciseaux d'Edouard Romain d'Argent, du look du Predator ou du design des dinosaures de Jurassic Park. Mais son œuvre la plus célèbre reste surtout l'exosquelette du Terminator.
Stan était certainement beaucoup moins célèbre à l'époque que ce qu'il est devenu par la suite. Mais il était génial, et il avait une vraie vision pour réaliser la scène d'ouverture et la décapitation. C'était quelqu'un de très agréable, j'ai vraiment apprécié, et nous sommes restés en contact pendant longtemps. J'ai toujours gardé un souvenir très affectueux de Stan.
Toute l'équipe s'installe ensuite à New York pour le tournage du reste du film, profitant de l'atmosphère urbaine brute et chaotique de la ville à la fin des années 70, qui correspond parfaitement à l'univers sombre et violent voulu par Glickenhaus. À cette époque, la ville est marquée par une forte criminalité, des tensions sociales palpables et un sentiment général de déclin, ce qui offre un décor naturel et authentique, loin des studios aseptisés d'Hollywood.
Pour moi, Le Droit de tuer, c'était une tentative de tourner quelque chose de proche du faux documentaire. Ce n'était pas une histoire vraie, mais ça aurait pu l'être. Et je l'ai filmé dans cet esprit. Beaucoup des personnes qu'on voit dans le film étaient simplement des gens de la rue. Bien sûr, j'avais quelques acteurs, mais sinon, on avait juste mis en place quelques éléments de décor. Honnêtement, je crois qu'il n'y a rien dans Le Droit de tuer qui ne soit pas ancré dans le réel.
L'une des scènes, censée se dérouler dans un bordel, a été tournée dans une véritable maison close illégale située sur la 42e rue, tout juste fermée par la police. James Glickenhaus, convaincu que ce lieu offrait un réalisme bien supérieur à n'importe quel décor reconstitué, demande à y filmer. Il finit par obtenir l'autorisation et la scène y est effectivement tournée. Pour promouvoir le film, la société de production et distribution AFCO Embassy veut un visuel fort, immédiatement reconnaissable et surtout qui interpelle. À l'époque, on ne misait pas sur des campagnes numériques ou des bandes-annonces virales, tout reposait sur l'affiche, placardé sur les murs, les abribus et surtout devant les cinémas. Il propose donc à Glickenhaus une image mystérieuse et percutante. Celle du héros casqué, anonyme, menaçant, habillé en noir, tenant un lance-flamme. Un visuel trompeur car le héros n'utilise un lance-flamme que dans une seule scène pour intimider un voyou attaché et le faire parler. Qu'importe, l'affiche marque tellement les esprits qu'elle est par la suite reprise, copiée et même parodiée. Le Droit de tuer sort sur les écrans américains le 10 septembre 1980 et rencontre immédiatement un franc succès. Dès les premières semaines, le bouche à oreille fonctionne à plein régime et c'est surtout l'affiche du film avec ce mystérieux homme masqué brandissant un lance-flamme qui intrigue et attire les curieux en masse. Beaucoup de spectateurs se rendent en salle simplement pour découvrir qui se cache derrière cette silhouette menaçante.
Wow !
Malgré son budget modeste de seulement 2 millions de dollars, le film termine sa carrière en salle avec près de 35 millions de dollars de recettes aux États-Unis. Un véritable exploit pour un film de série B aussi violent et radical dans son propos. Si le public répond présent, la presse spécialisée, elle, est beaucoup plus partagée. Certains saluent la nervosité de la mise en scène et l'efficacité brute du récit, quand d'autres dénoncent un film réactionnaire, amoral ou même fascisant, à l'image de la polémique qui avait déjà entouré un justicier dans la ville quelques années plus tôt.
C'est un scandale! Un scandale!
Il faudra attendre plus d'un an et demi pour que Le Droit de tuer débarque en France le 24 février 1982. Si sa sortie en salle se solde par un succès honnête avec un peu plus de 500 000 entrées, c'est surtout au cours de l'ère VHS que le film gagne son véritable statut culte. Distribué en vidéo par Hollywood Video, un éditeur bien connu des amateurs de série B et de cinéma d'exploitation, Le Droit de tuer devient un incontournable des vidéoclubs et s'impose comme l'un des fleurons du cinéma d'action urbain des années 80. Le thème de l'autodéfense et la violence sont les éléments les plus marquants et controversés du droit de tuer. Mais pour James Glickenhaus, cette violence n'est ni gratuite ni seulement spectaculaire. Elle est morale. Toujours selon lui, le personnage incarné par Robert Ginty ne tue pas par plaisir. Il agit selon une justice personnelle, brutale mais cohérente, née d'un monde où les lois ne protègent plus les innocents. Il déclare ne pas filmer un héros infaillible, mais un homme déchiré entre pulsions et principes. Pour lui, Ginty reflète ses pensées sombres que chacun garde pour soi, enfouies dans les recoins les plus obscurs de l'esprit. En somme, le droit de tuer ne se contente pas de montrer la violence. Il interroge notre rapport à la justice et à la vengeance. Et si, face à l'impuissance des autorités, nous étions tous tentés de devenir un jour l'exterminateur ?
C'est ça, tout le cœur du film. Ginty n'est pas un sadique ou un psychopathe. Il essaie de vivre selon un code moral, à sa manière, même si les autres ne le font pas.
Le réalisateur récuse toute accusation de cinéma fascisant. Au contraire, il défend un sous-texte libéral. Ici, la CIA n'est pas garante de l'ordre, mais incarne un pouvoir qui tente d'écraser la voix d'un homme du peuple. Toute l'ambiguïté du film est là. Le droit de tuer emprunte les codes du cinéma réactionnaire, mais les retourne contre les structures de pouvoir réelles. Ginty n'est pas un justicier d'extrême droite, mais un citoyen lambda abandonné par un système défaillant.
Oui, je crois que le film est plutôt libéral, mais je n'ai jamais voulu faire une déclaration politique. C'est comme Bob Dylan, il ne voulait pas déclencher une révolution, il écrivait juste des chansons. Chacun y voit ce qu'il veut. Pour le droit de tuer, c'est pareil.
Quatre ans après la sortie du droit de tuer, les inénarrables cousins Menahem Golan et Yoram Globus, patrons du mythique studio de la Canon, dont je vous ai longuement raconté l'incroyable histoire dans trois épisodes précédents, cherchent à en racheter les droits afin d'en produire la suite. James Glickenhaus n'est lui pas du tout intéressé par l'idée d'une séquelle. Il revend alors les droits à son ami Mark Bunsman, qui accepte lui de s'associer avec la Canon, mais à une seule condition, écrire et réaliser lui-même cette suite qui portera le nom de Exterminator 2.
C'était à l'époque où les suites de films commençaient vraiment à émerger, et ça ne m'intéressait absolument pas. Pour moi, le droit de tuer racontait une histoire qui avait une vraie raison d'exister, un vrai propos. Exterminator 2, ce n'était pas vraiment une histoire, c'était juste une entreprise commerciale. Donc, ça ne m'intéressait pas du tout. J'ai donc vendu les droits de mon film à Mark, et il est parti faire son film. Je n'ai eu aucun lien avec ce projet, ni même le moindre intérêt. Pour moi, la vraie suite du droit de tuer, ce n'était pas Exterminator 2, c'était Rambo. Je ne veux pas dire que ces gars-là ont copié quoi que ce soit, pas du tout. Mais artistiquement, je pense qu'ils ont capté l'essence de ce qu'aurait pu devenir le personnage en se retrouvant dans une petite ville du Nord. Et là, il se retrouve replongé dans la même histoire. Ce film avait une vraie raison d'être. Il portait un propos, c'était un très bon film. Et pour moi, j'ai toujours pensé que Rambo, c'était en quelque sorte la véritable suite du droit de tuer.
La Canon accepte le deal proposé par Mark Bunsman et alloue au néo-réalisateur, l'homme n'a encore aucune expérience derrière la caméra, un budget modeste inférieur à 2 millions de dollars. On retrouve ainsi l'exterminateur, toujours incarné par Robert Ginty, prêt à arpenter une nouvelle fois les rues de New York pour faire le ménage. Exterminator 2 sort dans les salles américaines le 14 septembre 1984. Mais le public, cette fois-ci, ne se rue pas dans les salles, le film récoltant moins de 4 millions de dollars au box-office. En France, il sort en novembre 1985 dans une version légèrement plus longue et plus violente, mais passe là aussi totalement inaperçu. Pourtant, Exterminator 2 connaîtra par la suite un véritable carton en VHS, tant en France qu'aux États-Unis, devenant rapidement un classique de vidéoclub. Si vous voulez en savoir plus sur cette suite un peu oubliée, je vous invite à écouter la troisième partie de l'incroyable histoire de la Canon, où je reviens longuement sur les coulisses de ce film. Le droit de tuer, tout comme sa suite, ne sont disponibles sur aucune plateforme. Pour les voir, il existe heureusement pour chacun d'eux une édition Blu-ray.
Voilà, c'est fini.
Voilà, c'était Max pour le droit de tuer. On se retrouve très vite pour un nouveau retour sur les coulisses d'un film. En attendant, tous nos précédents épisodes sont toujours disponibles sur notre site retouralecran.fr, sur YouTube et sur les meilleures plateformes de podcast et de streaming musical. À bientôt.
Bah, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres.
C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma.
You're talking to me?
Pour être aimé, il faut être aimable.
Vous voulez un chocolat?
C'était pas ma guerre.
Back in full force.
Quelle est votre devise?
Je m'appelle Bond. James Bond.
Vous délirez totalement là.
C'est ça
qui permet de voyager à travers le temps.
La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien.
Vous êtes un mélancolique.
Mélancolique, mon cul.